Voilà, bonjour à vous tous, frères et sœurs d'Istres, heureux de vous revoir. Le but ce matin, c'est de s'encourager, de s'édifier dans le Seigneur, d'aller un peu plus loin avec lui. Vous rappelez qu'il y a quelque temps, j'étais venu, je vous avais parlé de Barzilaï. Et on sait qu'il s'est arrêté un petit peu, c'est dommage, en chemin, mais ses filles sont allées jusqu'à Jérusalem, avec le roi, ils ont répondu à l'invitation de David. Alors ce matin, résolu et déterminé, nous voulons aller un peu plus loin avec le Seigneur. Amen. Dans ce qu'il a prévu, dans son plan, dans son dessein, il tient nos vies dans sa main et il nous a annoncé une destinée glorieuse. Alors ce matin, je vous invite à faire la lecture, je pense qu'elle va être affichée, ça se retrouve dans Zacharie, chapitre 9, verset 9. Zacharie, chapitre 9, verset 9. Voilà ce qui est dit. Sois transporté d'allégresse, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici, ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne. Sur un âne, le petit d'une ânesse. Amen. Ce matin, je voudrais vous parler sur l'âne. Pourquoi vous souriez là, hein? Oui, l'âne est très présent. Si vous regardez dans l'Ancienne et dans la Nouvelle Alliance, il est quand même présent puisqu'il est mentionné plus de 90 fois dans la Bible. Alors, en Orient, il y en avait beaucoup. Je me rappelle quand nous sommes venus pour une... parce que maintenant, je fais partie du troisième âge, vous le savez. Je n'ai pas besoin de vous le dire. On avait mangé à Madina. Voilà, pas cette fois-ci, mais l'autre. Et quand je suis arrivé à Istres, avant de trouver le chemin par là-bas, j'étais frappé parce que j'ai vu dans un champ, il y avait un troupeau d'ânes. Il y a des ânes à Istres, là-bas, pas ici. Non, ne soyez pas comme ça. Donc il était très apprécié en Orient, et je vois que même en Provence, on l'âne, c'est mon moulin, là, Alphonse Daudet, il avait son âne. C'était une monture très appréciée. Bien que l'âne, il faut préciser, de Provence, avec ses grandes oreilles, là, n'est pas tout à fait le même qui était en Orient. Celui d'Orient était un peu différent. Nous, on dit l'âne gris, mais là-bas, en Orient, il était plutôt roux, et plus fort, plus costaud. Chaque pays a ses... Donc il y avait l'âne sauvage et l'âne domestique, bien sûr, qui était très utilisé à l'époque. On voit qu'Abraham se lava de bon matin, il sella son âne et il alla pour offrir Isaac. On voit dans l'Écriture que c'était très... On voit Job, il avait 500 ânesses. Vous voyez, Job, lui, il préférait... Peut-être elles sont un peu plus dociles, paraît-il, les ânesses. Bon, soyons de retour de captivité. Quand on a compté ceux qui retournaient, les captifs, on a compté, tout était précisé du temps de Néhémie et Esdras, 42 360 personnes qui se sont retournées à Jérusalem pour la reconstruction, l'établissement du culte, etc. Et on voit que tout était précis. Il y avait 736 chevaux, 245 mulets, 435 chameaux et 6720 ânes. Vous voyez que tout était précis. On les comptait, ces ânes, c'est écrit. Si vous lisez dans les Écritures, vous verrez que le cheval était utilisé pour la guerre, la parade. D'ailleurs, on avait dit à Salomon que tu n'es pas beaucoup de chevaux, n'est-ce pas ? Mais les ânes étaient très appréciés pour toutes sortes de raisons, pour cultiver, etc., et comme monture. Bien sûr, aujourd'hui, peut-être par rapport à la Bible, son image est un peu défigurée, parce que pour nous, il est un peu le symbole de l'ignorance, le baudet d'âne, on disait. Vous ne l'avez pas eu à l'école, Hein, moi non plus. Mais des fois, quand on se trompait, on dit « tu fais une ânerie », vous voyez. Donc, il n'a pas beaucoup bonne presse. On le voit dans l'ignorance et faire des bêtises. Et puis, on le voit un peu, selon le langage populaire, un peu obstiné. Hein. On dit « c'est un âne, il ne veut pas avancer, il est têtu comme un âne, n'est-ce pas ?» Pourquoi vous souriez? Vous en connaissez, vous, des gens têtus qui ne veulent pas avancer? Bon, pour pas dire bon, un mot, tu es une bourrique, et voilà, vous voyez, c'est un peu ça. Bon, allez, redevenons un peu sérieux. Hein. Le mulet, c'est un croisement d'âne et de jument, et comme on voit dans l'écriture, mais c'était défendu. C'était pas selon la loi, c'était pas dans le plan. Et la preuve, c'est que, vous voyez, quand on fait des mélanges comme le fidèle, l'infidèle, etc., eh bien, ça ne produit pas de fruits, parce qu'il ne pouvait pas se reproduire. Le mulet ne pouvait pas se reproduire. Et Absalom, qu'on a connu et on en a parlé il n'y a pas longtemps, Absalom, était, quand il a été pris dans le térébinthe et qu'il a été transpercé, eh bien, il était monté sur un mulet qui l'a laissé suspendu. La présence du mulet n'est pas une bonne chose. Vous voyez que comme quoi, dans la parole de Dieu, il y a des choses et il faut que ça soit clair. On ne mélange pas le fidèle et l'infidèle, la lumière et les ténèbres. On peut pas. Il faut qu'avec le Seigneur, les choses soient bien, toujours bien cadrées, bien dans son plan, bien, bien réglées. Alors, ça porte du fruit. Alors, il y a du fruit. Il y a des bons fruits. Mais autrement, les choses sont stériles. C'est vrai qu'aujourd'hui, on en voit un petit peu de partout, mais ce qui est très, défini chez lui, c'est son cri. Hein, un cri terrible. Hein. Ne faites pas le cri de l'âne. Non, je ne vous ai pas dit de faire riant. Hein. Non, c'est strident, c'est difficile. Hein. Mais les ânes étaient très réputées et que la Rolls Royce, j'allais dire, hein, c'était l'ânesse blanche. On voit que Déborah, etc., dans le livre des juges, il est parlé. Mais premièrement, ce matin, je voulais vous parler de l'âne sauvage, voyez, mais qui peut devenir domestique, et puis de l'âne qui est racheté, parce qu'il a besoin de rachat, le premier-né de l'âne, et l'âne serviteur. C'est une bonne conclusion, vous voyez, un âne qui peut devenir un bon serviteur. Alors, on va lire maintenant je vous propose de lire avec moi dans Genèse 16, 12, ça va s'afficher, voyez-vous. Bon, je le lis ici, c'est plus simple. « Il sera comme un âne sauvage, sa main sera contre tous, et la main de tous sera contre lui, et il habitera en face de tous ses frères. » Il est question d'un nommé, vous allez peut-être me le dire, il s'appelait Ismaël. Vous savez qu'Abraham a eu deux fils, Ismaël et Isaac. Vous savez qu'Abraham, Dieu lui avait fait une promesse extraordinaire, n'est-ce pas? Tu as une postérité, etc. Et puis Abraham a perdu patience, on a perdu patience. Donc sa femme lui a dit, il lui a donné un conseil, va vers la servante, elle donnera un fils. Mais vous savez, c'est Agar, et le fils de la servante, c'est Ismaël. Et il y a eu conflit entre celle qui attendait un enfant, donc Agar, et elle a fait la fière par rapport à Sarai. Et Sarai l'a chassée. Et on la retrouve dans le désert. L'ange de l'Éternel se trouve près d'une source d'eau dans le désert. Et il dit, non, non, tu as fui ta maîtresse, c'est vrai, elle t'a maltraitée. Mais retourne et humilie-toi devant elle. Et tu auras un fils, Ismaël, qui signifie Dieu entend. Et Dieu a entendu. Mais il sera comme un âne sauvage. Sa main sera contre tous et tout sera contre lui. Et il a donné une postérité, vous le savez, prophétique, concernant eh bien, les fils de la chair d'Abraham, c'est-à-dire tout le côté arabe, n'est-ce pas, Ismaël. C'est le fruit de la chair, c'est l'âne sauvage, c'est-à-dire non maîtrisé, non contrôlé, non dompté. On voit son caractère, sa personnalité, aussi bien prophétique. Job disait ceci, « L'homme a l'intelligence d'un fou, la version Darby dira stupide, il est comme le petit d'un âne sauvage. » Je vais vous dire ce matin honnêtement, en nous, il y a tous un Ismaël, le fruit de la chair, hein, et qui fait la guerre au fruit de l'esprit, Isaac. C'est ce que l'Écriture dit, que celui qui était né selon la chair, c'est-à-dire Ismaël, persécutait celui qui était né selon l'esprit. Donc conflit, comme Ismaël et Isaac et comme lui-même, et encore aujourd'hui, il y a conflit. Moi je dis, et c'est simple, je parle à des hommes et des femmes, des enfants de Dieu ce matin, nous sommes nés de l'esprit, mais il y a encore Ismaël qui est là, qui fait un peu des ravages et des dégâts. À moins que vous soyez que des gens de l'esprit, hein, revêtus entièrement de l'homme nouveau. Mais si nous sommes honnêtes, il y a à la fois cohabitation, j'allais dire, une mauvaise cohabitation, entre le vieil homme et l'homme nouveau. Mais la Bible nous dit que le Seigneur, eh bien, il veut maîtriser, et il a maîtrisé à la croix le vieil homme, pour que nous marchions maintenant selon l'homme nouveau, selon Isaac. Amen. Mais il y a un conflit. Il faut qu'il y ait maîtrise. Galates le dit, la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Ils sont opposés entre eux et vous ne faites pas ce que vous voulez. Tout chrétien a ce combat, cette lutte. Mais ce n'est pas Ismaël qui doit contrôler notre vie. C'est l'homme nouveau, c'est l'esprit. Si nous marchons en nouveauté de vie selon l'esprit, mais ça n'empêche pas que nous avons ce combat intérieur. Dites-moi, l'apôtre Paul, qu'est-ce qu'il dit? Il le confesse dans Romains 7, 14, n'est-ce pas? La loi est spirituelle, selon l'homme intérieur. Je prends plaisir à la loi spirituelle. Mais moi, je suis quoi? Je suis charnel. Je suis encore Ismaël. Je suis encore dans un combat face à cette nature que j'ai hérité d'Adam. Vous me direz, mais je suis né de nouveau, je suis né d'en haut, je suis une nouvelle créature. Oui, tu as commencé le processus de ce qu'on appelle de passer du charnel au spirituel, de passer à l'ancienne nature à la nouvelle nature. Et ce matin, il faut que Christ soit non seulement né en nous, formé en nous, grandir en nous, et dominer en nous. Nous ne sommes plus appelés à vivre et à marcher selon la chair, mais nous sommes appelés à marcher et à vivre selon l'esprit. Et parfois nous disons, la vieille nature, elle revient. Vous avez remarqué? On dit, mais dans le baptistère, ça y est, on l'a noyé, on l'a englouti, dans le principe. Mais après, il faut le vivre. Paul disait, moi je suis encore charnel. Mais qui me délivrera? Qui me délivrera? Qui nous a délivrés? Qui me délivrera du corps de cette mort, de l'âne sauvage? Mais grâce soit rendue à Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Le mot, c'est Seigneur Jésus-Christ. Il faut que Christ soit Seigneur dans nos vies. C'est lui qui doit régner. C'est lui qui doit diriger notre vie. C'est lui qui doit gouverner notre vie. Jésus n'est pas simplement le sauveur qui me pardonne, mais il est le Seigneur qui doit régner sur mes pensées, sur ma volonté, sur ma vie de tous les jours. Vous savez, souvent dans notre vie spirituelle et même dans l'Église, le problème c'est que nous sommes encore, comme dit Paul, je suis encore et nous vivons encore trop charnellement, humainement. Mais tout cela doit mourir, parce que Christ a pris le vieil homme et il l'a crucifié à la croix du calvaire. Ça, c'est le principe. Et l'Écriture dit une chose étonnante, c'est parce que je suis mort que je dois mourir. Normalement, quand vous êtes mort, vous ne devez plus mourir. Mais spirituellement, c'est cela. C'est parce que je suis mort avec Christ à la croix que je dois mourir à moi-même, à ma volonté, à mon plan, à mes désirs, afin que Christ règne en moi. Celui qui doit être assis sur le trône de notre cœur, c'est le Seigneur, Jésus, qui doit régner. Car la Bible dit, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Je vais vous raconter une petite histoire. Oh, c'est qu'une petite histoire. Hein. Je l'ai entendu un jour d'un pasteur, je peux la raconter. Tout ce qui vient des pasteurs, n'est-ce pas, c'est, on peut le raconter. C'était dans un pays merveilleux, extraordinaire, vous savez, des mille et une nuits, là, il y a des choses extraordinaires. Alors, il y avait comme un grand émir qui recevait des amis, alors il voulait les, comment dire, les épater, leur en mettre plein les yeux. Plein. Alors, il a reçu ses amis, alors vous voyez le contexte, fabuleux, extraordinaire. Alors, il a dit, tu prendras bien un thé, vous prendrez bien un thé. Il a dit, oui. Nous prendrons un thé, tu nous offres un thé, c'était l'heure du thé, vous voyez, les petits biscuits. Quoi, ça c'est en Angleterre, ça. Bon, alors, et il claque dans les doigts, et qui arrive ? Un chat qui tenait sur son plateau, le thé. Il arrive, il sert le thé. Ils n'avaient jamais vu ça, vous non plus, hein ? Et vous ne le verrez jamais. Bon, alors, mais c'est qu'une histoire, quoi, c'est qu'une histoire. Alors, ils arrivent, l'autre, il apporte le thé, le chat, il porte le thé. Ils étaient vraiment fabuleux, c'est un grand émir, c'est extraordinaire. Ils n'en revenaient pas, ils étaient ébahis, comme nous, hein, et ils avaient du mal à le croire. Bon, alors, ils sont repartis, et l'autre les a réinvités, et il leur a dit, « Bon, alors, qu'est-ce que vous voulez ?» Eh bien, oui, un thé comme l'autre fois. Il claque dans les doigts, le chat arrive, il apporte sur un plateau un thé, les biscuits et tout ça. Ils ont dit, mais c'est pas possible, ça, un truc pareil. Pas pareil. Un autre jour, ils ont dit, il y a un truc là. Alors, ils ont dit, on va voir, on va voir. Ils sont réinvités. Vous voulez un thé ? Oui, on veut un thé. Alors, le chat arrive, il claque dans les doigts, le chat arrive, il apporte le thé, il sert le thé, c'est pas possible. Ils avaient une souris, ils ont lâché la souris. Eh bien, le chat, il a envoyé le plateau en l'air, et il a couru après la souris. Petite histoire, c'est rigolo, hein, ça vous fait un peu sourire. Hein. Ils l'ont eu, hein. Eh oui, chasser le naturel, il revient au galop, hein. Eh, le chat, vous ne pouvez pas le... Hein. Il veut bien servir le thé, mais la souris, il préfère la souris quand même. Hein. Hein, il court après les souris. Vous savez, cette petite histoire marrante, hein, c'est un peu gros, quoi. Mais c'est bien des fois. Vous avez vu bien des personnes dire « Ah, je me tiens, je me maîtrise. » Mais vous grattez un petit peu, vous lâchez la souris, vous voyez. Et puis la vieille nature, elle revient, la colère, hein, quelqu'un vous fait une queue de poisson sur l'autoroute, là, vous dites, « Oh, celui-là, celui-là, je l'attrape. » Vieille nature, n'est-ce pas ? Ce matin, j'ai vu une personne qui venait à l'église. Enfin, non, elle n'a pas fait de queue de poisson à quelqu'un. Mais elle avait un poisson à l'entrée de Istres, un poisson sur sa voiture. J'ai dit, eh bien, j'ai mon GPS devant moi, je sais où il va. Hein. Et c'est vrai, il est venu ici, il doit être par là. Voilà, hein. Mais il n'a pas fait de queue de poisson. Hein. Il s'est bien comporté. Vous avez remarqué que nous, des fois, on a les bonnes manières. C'est l'éducation, on voit dans le monde, il faut... Bien sûr qu'il faut, là. Mais dès qu'on réveille le Ismaël, hein, il ne se réveille pas des fois un peu, Ismaël. Et puis ça fait du bruit. Je me rappelle un jour, je suis arrivé, c'était à Narbonne, je faisais une visite à un couple. J'arrive, il y avait sur leur porte, ils avaient mis un petit, comme on faisait autrefois, on mettait beaucoup d'autocollants. Dieu est amour. J'arrive, je vais pour sonner, j'entends des bruits, des bruits. Il y avait des objets volants non identifiés, quoi, qui se... Des bruits, Dieu est amour. Ouais, alors, j'hésitais de sonner, j'ai dit peut-être. Et puis j'ai sonné, on est venu m'ouvrir. Oh, on ne m'attendait pas. Ouais, le Ismaël, il s'est. J'ai dit, frères et sœurs, si le Seigneur revenait maintenant, quel état, quelle situation? Est-ce que c'est digne d'enfant de Dieu? Est-ce que c'est notre attitude? Je ne veux pas culpabiliser parce qu'on est tous pareils. Tous pareils. Le vieil homme. Le Ismaël, il est là. Mais Jésus l'a crucifié. Merci Seigneur. Ce que je ne peux pas dominer, ce que je ne peux pas vaincre, cette vieille nature avec ses impulsions, ses réactions et ses paroles, et tu m'as dit, et parfois les gestes, et parfois... Seigneur, la croix est ma délivrance. Je suis crucifié avec Christ. Ceux qui sont à Jésus doivent être crucifiés, la chair avec ses passions et ses désirs. Romains 6, 6, je vous cite beaucoup de versets, mais c'est utile. Parce que c'est biblique, c'est la parole. On nous dit « prêche la parole ». Alors je prêche la parole. Romains 6, 6, sachant que notre vieil homme, et vieille femme, pardon, a été crucifié avec lui. Parce qu'il n'y a pas que les hommes. J'en ai connu, bon, je ne dirais pas, mais des fois, je me rappelle de ce frère qui venait, c'était à Salon de Provence. Un jour, j'ai dit « mais qu'est-ce que tu as un problème dans ta chemise ?» Il n'osait pas me dire. Après, on a parlé, n'est-ce pas, où on lui avait... déchirer sa chemise. Aïe, 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 aïe. Il faut être dans la réalité dure, la chair, vous savez. Ismaël, il aura la main contre tous et tous seront contre lui. Ce sera toujours opposition, conflit. Ne nous berçons pas d'illusions. Le combat contre la chair, la vieille nature, ses passions et ses désirs, c'est un combat terrible. Seul le Seigneur l'a vaincu. Seul le Seigneur l'a dominé. C'est pour ça que si Paul dit Galates 2:20, j'ai été crucifié avec Christ, c'est un fait, c'est un fait. Si je vis maintenant, ce n'est plus le moi qui vit, mais c'est Christ qui vit en moi. Vous savez, la délivrance, c'est quand le Seigneur, comme disait Jean-Baptiste, il faut qu'il croisse. Et c'est que quand le Seigneur grandit en moi, prend toute la place, la première place, que le Ismaël, il courbe la tête. Il est crucifié, il est mort. Il est toujours là, il veille. Si je ne veille pas, si je ne marche pas dans la lumière, il est comme ressuscité, n'est-ce pas? C'est qu'à la mort que nous en serons délivrés. C'est pour cela que nous avons besoin de tenir jusqu'à bout. Et Paul le dit, si je vis, c'est dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré pour moi. Il sera comme un âne sauvage qui a besoin d'être domestiqué, maîtrisé, contrôlé, docile, devenir. Ça, c'est le cœur de l'homme naturel. Jérémie disait, le cœur de l'homme, il est tortueux par-dessus tout, il est méchant. Alors, j'ai bien aimé la version français courant qui dit, on ne peut le guérir. Et si vous voulez le guérir, vous ne pourrez pas le guérir. Mais Christ nous en délivre à la croix du calvaire. Qui peut le connaître ? Et simplement une petite image, est-ce que vous arrivez à contrôler votre langue? Jacques le dit, hein? C'est un petit membre, mais qu'est-ce qui se vante de grandes choses, hein? Ah là là, hein? Avec la langue on en fait des yakas, des si, des faudriqueux et des toutes sortes. Ah, la langue, d'ailleurs Jacques le dit, verset 7, la langue, aucun homme ne peut la dompter. Tu peux bénir le Père, ah c'est bien là. Mais tu peux maudire les hommes. Vous voyez, la langue, c'est terrible. Qui peut la dompter? Eh bien, écoutez, au jour de la Pentecôte, elle a été domptée, la langue. Parce qu'il parlait des merveilles de Dieu. Hein. Il parlait de nouvelles langues. C'est la preuve que quand on marche par l'esprit, eh bien, on a le Ismaël qui, sauvage qui devient domestique. Il devient un serviteur qui sera utile. Soyons, marchons, soyons remplis, soyons sous le contrôle du Saint-Esprit. C'est cela la vie chrétienne. La vraie vie chrétienne, c'est la marche selon l'Esprit. N'oublions jamais, nous sommes nés de l'Esprit. Nous marchons par l'Esprit. Nous portons les fruits de l'Esprit. Nous exerçons les dons de l'Esprit. Nous manifestons la vie selon l'Esprit. D'ailleurs, lui-même Jésus, regardez, de la conception jusque même à la mort, c'est par l'Esprit et uniquement par l'esprit. Le vieil homme, il ne sert à rien, il est vaincu, on ne peut pas le dompter, il est bon à rien, il ne peut guérir, il est bon qu'à une chose, c'est de mourir à la croix. Mais quand je suis mort avec Christ à la croix, je suis délivré de moi-même, donc je vis une vie nouvelle. Alléluia. Je suis passé de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, du royaume de Satan au royaume de Dieu. Ça, c'est l'âne sauvage Ismaël. Hein. Mais il y a quelque chose de très intéressant. L'âne. Moïse, Exode, chapitre 13, verset 11. Exode, chapitre 13, verset 11. Voilà, c'est affiché. Quand l'Éternel t'aura fait entrer dans le pays des Cananéens, comme il l'a juré à toi et à tes pères, et qu'il t'aura donné, tu consacreras à l'Éternel tout premier-né, même tout premier-né des animaux. C'était vrai pour les hommes, c'était vrai même pour les animaux. La preuve, c'est que les premiers-nés des hommes, le Seigneur en a fait une tribu. Il a mis à part une tribu, la tribu de Lévi, qui lui était entièrement consacrée. Au lieu que ce soit les premiers-nés de chaque famille, ça a été une tribu qui lui a été consacrée. Tu consacreras à l'Éternel tout premier-né, quand tout premier-né des animaux, tu auras des mâles qui appartiennent à l'Éternel. Tu rachèteras avec un agneau tout premier-né de l'âne. Si tu ne le rachètes pas, tu lui briseras la nuque. Terrible ça, hein? Tu lui briseras la nuque. C'est la mort pour lui. L'âne racheté. Consécration. Comment racheter l'âne, le premier-né de l'âne? Eh bien, avec un agneau. Ainsi, l'agneau prend la place de l'âne. L'âne pouvait dire, eh bien, si je suis en vie, c'est grâce à l'agneau. Et nous, qu'est-ce que nous pouvons dire ce matin? Si nous sommes en vie, c'est grâce à l'agneau de Dieu qui a été offert pour nous à la croix du calvaire. Donc, tout acte de consécration du premier-né, un acte, nous appartenons au Seigneur. Parfois, j'entends, je me donne au Seigneur, je me livre. Bien sûr, nous nous donnons. L'Écriture nous dit, offrez vos corps. Comme... Mais j'aimerais quand même que nous réalisions ce matin que nous appartenons de droit au Seigneur. Nous nous donnons à lui volontairement et par amour, bien sûr, parce que le Seigneur ne veut pas des choses forcées, ce n'est pas ça qui lui est agréable. Nous nous donnons à lui, mais nous lui donnons ce qui lui appartient. Donc, nous ne lui donnons pas grand-chose, quoi. Hein. Si vous, je vous donne ce qui est à vous, je vous dis, ah, je te fais un cadeau. Tu ne me fais pas de cadeau, c'est à moi. Hein? Et oui, d'une certaine manière, frères et sœurs, nous appartenons. D'ailleurs, Paul le dit aux Corinthiens, il dit 1 Corinthiens 6, 19, « Votre corps, temple du Saint-Esprit qui est en vous, puisque maintenant vous êtes remplis de l'Esprit, vous marchez selon l'Esprit, même votre corps. » Parce qu'on n'a pas donné que notre cœur au Seigneur, c'est notre vie tout entière qui lui appartient. Les Corinthiens, ils avaient une drôle de mentalité, ils disaient « oui, l'esprit pour le Seigneur, mon esprit, mon cœur, mais mon corps, je fais ce que je veux. » Ah non, ah non, c'est notre être tout entier qui est pour le Seigneur. C'est pas que notre cœur, je te donne mon cœur, oui, mon amour, c'est le départ. Mais notre vie tout entière appartient au Seigneur. Et c'est ce qui est dit, « votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous ». Vous ne vous appartenez plus à vous-même, car vous avez été racheté à un grand prix, le prix du sang précieux de Jésus à la croix du calvaire. L'âne pouvait dire, premier-né de la famille, bien sûr c'était que pour le premier-né, si je vis, c'est grâce à l'agneau qui m'a racheté. Autrement, j'aurais eu la nuque brisée. Symbole de mort. Tous ceux qui ne seront pas rachetés, ou qui ne rentrent pas dans le salut, rachetés par le sang et l'agneau de Dieu, qui ne disent pas « Jésus, c'est l'agneau de Dieu, voici l'agneau de Dieu », tous ceux qui n'ont pas recours, ils sont perdus. ou on est perdu ou on est sauvé. Vous savez, l'Écriture, c'est dur, mais c'est comme ça. Nous ne pouvons accéder au royaume de Dieu, à la vie nouvelle, à la vie chrétienne, à la vie avec le Seigneur, que parce que nous sommes rachetés par l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde et qui a ôté notre péché. Pierre le dit dans son épître, « Ce n'est pas par des choses périssables avec de l'argent, de l'or que vous avez été rachetés. » Le Rédempteur, mon Rédempteur est vivant, souvenez-vous de Job, hein, de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme un agneau sans défaut et sans tache, qui s'est offert pour nous, bien sûr, à la croix du calvaire. Je dis merci Seigneur, parce que je suis encore un peu le Ismaël, un agneau sauvage, mais tu m'as dominé, maîtrisé, tu es mon Seigneur maintenant. Mais tout cela parce que je suis ton racheté, je suis ton enfant, ma vie t'appartient. Nous appartenons au Seigneur. Et notre vie lui est agréable parce qu'elle lui est consacrée, elle lui est donnée. Et pour terminer, l'agneau serviteur. Et oui, parce que si le Seigneur nous a délivrés de l'agneau, de l'âne sauvage, de la vieille nature, de Ismaël, qui nous a rachetés pour que nous soyons à lui et nous lui appartenons, c'est pour que maintenant nous puissions le servir. Alors on va revenir sur, n'est-ce pas, Zacharie 9:9. Voici ton roi, vient à toi, il est juste et victorieux, il est humble et monté sur un âne. Vous vous rappelez que Jésus, eh bien, c'est avant la Pâque, 8 jours avant, donc il y a 8 jours, on disait c'était Hosanna, 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 hein, on parlait de. Eh bien, la mission de cet âne racheté qui appartient au Seigneur, c'est que maintenant, là nous voyons une chose, c'est que l'âne, il porte le roi. Il porte le roi. On l'a détaché, on l'a fait venir, et il porte le roi qui rentre à Jérusalem sous les acclamations du peuple. La Bible dit, on le fit rasseoir dessus. Il entra à Jérusalem au cri des acclamations, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Ce matin, nous pouvons conclure, nous sommes les porteurs de l'agneau, alléluia, dans ce monde. Nous portons Jésus-Christ, nous le portons dans notre cœur, nous le portons dans notre vie, dans notre famille, nous le portons dans l'Église, nous le portons dans ce monde. Quel honneur nous avons de porter Jésus. C'est notre vocation. C'est notre appel. Avant, nous étions et encore des fois, il y a des ressentiments, l'âne sauvage qui a été maîtrisé, qui a été racheté par l'agneau. Mais maintenant, c'est l'âne qui porte l'agneau et qui porte le caractère de Christ. C'est-à-dire que le monde doit voir en nous, eh bien, le caractère de l'agneau. Vous avez remarqué que l'agneau, il n'a pas de griffes, hein, il n'a pas des grosses dents de loup, non. L'agneau, comme un agneau muet devant celui qu'on tend et on mène à la boucherie. L'agneau de Dieu. Vous savez, quand on est allé chercher l'âne, le petit ânon, d'abord, il est dit que personne n'avait monté sur lui. Ça montait, il était encore avec sa mère. Donc, il fallait, pour qu'on puisse charger un agneau pour quelqu'un, il fallait qu'il ait 3 ans, l'âge de maturité, quoi, On ne le chargeait pas quand il était tout petit, quoi. Mais il fallait 3 ans, la maturité, 3 ans. C'est le temps du ministère de Jésus, les 3 ans, n'est-ce pas? Et maintenant, ils ont été avec Jésus, les disciples, ils doivent porter l'agneau pour chacun d'entre nous. Quelle grâce, quel privilège, quel honneur le Seigneur fait que nous, charnels encore, peut-être humains, nous portions Jésus dans ce monde. La Bible dit, nous le portons dans des vases de terre, mais nous portons un trésor. Hein. Paul a été choisi pour porter le nom du Seigneur. Cet homme, il va souffrir, il va passer par toutes sortes de chemins, mais il va apprendre de porter mon nom devant les nations et devant les peuples. Nous aussi, nous portons le nom de chrétien. Chrétien veut dire petit Christ. Hein. Nous portons le Christ, l'amour de Christ, la vie de Christ. Est-ce que le monde peut voir en nous l'agneau, Jésus, le caractère, la vie, la douceur, l'humilité? Vous savez, comme on dit parfois, ce que nous sommes parle plus que ce que nous disons. Hein, ce que nous disons, c'est une chose. Nous sommes appelés à témoigner, à parler, mais parlons de ce que nous vivons. Nous devons être, on dit aujourd'hui, des flyers, hein, c'est mauvais, des flyers vivants. Alléluia. Il y a 120 flyers vivants là. Alléluia. Vous allez partir dans Istres ou les alentours et le monde va voir. Voir qui? L'anon? Pas intéressant. Mais voir l'agneau. Hein. Ce n'est pas l'anon qui doit se montrer. Dire. Peut-être ce jour-là, il disait, mais on m'a mis des vêtements, on m'a paré, mais je suis bien. On m'acclame. Mais ce n'était pas l'agneau, c'est pas l'anon qu'on acclamait. C'était l'agneau, hein. C'est pas nous, hein. Pas à nous, Seigneur, mais à toi toute la gloire. Portons la parole de vie. La Bible dit portons la parole de vie au travers de nous. Eh bien, que ce matin, frères et sœurs, nous soyons ces anons qui arrivent à maturité, qui ne sont plus sauvages mais domestiqués, qui sont rachetés et qui portent Jésus tous les jours de leur vie pour ceux qui nous entourent. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Merci Seigneur pour l'appel que tu nous as adressé. Merci pour la révélation que tu nous as donnée de ta personne. Merci parce que nous sommes à toi. Nous sommes tes rachetés. Tu nous as rachetés à un grand prix, Seigneur. Tu nous as sauvés. Autrement, comme l'anon, on lui brisait la nuque, c'était la mort. Mais tu nous as donné la vie, Seigneur. Tu nous as libérés. Tu as fait de nous des hommes et des femmes libres pour te servir maintenant, pour te porter dans ce monde. Alors nous voulons accomplir la mission que tu nous as donnée, que le monde puisse voir en nous, au travers de nous et dans ton Église, Seigneur. Que l'agneau règne, que l'agneau domine, que l'agneau est honoré, que l'agneau est acclamé, que l'agneau est glorifié, grandis en nous, Seigneur. Oh, que tu puisses croître en nous et prendre toute la place. Règne sur nos cœurs, règne sur nos vies, sois acclamé et béni, Seigneur. Demeure avec nous, reste avec nous et que ta présence nous accompagne. Merci, Seigneur. Toi, le roi de gloire, fais ton entrée dans ton Église au nom de Jésus. Amen.